Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus martyre.
Jésus libère.
Jésus rétête.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, Jabodima.
Qui renverse des raisons, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors ce matin, je voudrais vous prêcher en commençant à vous raconter une petite histoire. Tout le monde a reconnu, quand on voit un dessin de Picasso, tout le monde sait que c'est Picasso qui l'a fait, n'est-ce pas? Et là, tout le monde a commencé à dire, ça se voit que c'est Philippe qui a dessiné. Effectivement, ce serait tout à fait mon style. Je peux très difficilement faire mieux, mais là, je vous promets, c'est pas moi. Alors, c'est l'histoire d'un petit oiseau qui doit partir avec ses parents à l'automne. On va dire que ce petit oiseau, il est en Suisse. Et c'est le moment de l'automne et tous les oiseaux savent que en automne il fait froid en Suisse, donc ils s'en vont vers le sud, vers la Tunisie, ils s'en vont vers là-bas. Et puis, papa, maman oiseau, surtout maman oiseau dit, maintenant on s'en va. Et le petit dit, non, moi je suis bien ici, je suis avec mes copains, je connais mes arbres, je sais où je vis ici, je sais où je m'amuse, je reste ici. Non, je t'assure, faut que tu viennes parce que le froid va arriver et un oiseau n'est pas fait pour rester vivre dans le froid. Non, je veux rester ici. Alors elle lui promet même qu'en traversant l'Italie, ils mangeront les glaces italiennes, mais rien n'y fait, le petit oiseau veut rester en Suisse. Et arrive le mois de novembre, comme nous sommes maintenant, au mois de novembre, et le froid arrive de plus en plus fort. Mais lui, il se dit qu'il va résister, puis peu à peu, il voit que c'est très difficile de résister. Alors il commence à se dire, bon moi, je vais prendre mon envol, et il va voyager en colissime oiseau, le plus rapidement possible pour aller au sud de l'Italie et peut-être jusqu'en Tunisie. Mais vraiment, il fait froid. Alors, il commence à voyager, à voler, puis pendant qu'il vole, il sent le froid, parce que vous savez, en altitude, il fait encore plus froid qu'en bas, et ça, il n'y avait pas pensé non plus. Et il vole tout ce qu'il peut, mais en traversant les Alpes. Alors là, le froid est terrible. Et puis, à un moment donné, ses ailes commencent à geler, il a du mal à les bouger, et puis voilà que le petit oiseau commence à voir ses ailes paralysées, gelées, et pendant qu'il a les ailes paralysées, il commence à sentir qu'il descend, il descend, il n'a plus aucun moyen de voler, puis, boum, il tombe dans l'herbe, dans le champ des Alpes suisses, près de la frontière italienne. Et là, il se dit, mais je vais mourir maintenant. Alors il attend simplement de mourir. Mais arrive une vache, qui se tourne, parce qu'en Suisse, il y a des vaches, tout le monde sait ça, n'est-ce pas, Ria? Et donc, arrive une vache, pour ceux qui préfèrent un titre plus qui ferait moins Fable de La Fontaine que Le Petit Oiseau, La Vache et le Renard, on pourrait appeler ça 4 leçons de transformation pour nos vies. Mais sinon, arrive la vache. La vache vient, elle se tourne vers l'oiseau, et effectivement, elle fait une bouse sur l'oiseau. Et si vous avez aimé ce qu'elle faisait, vous allez voir, elle vous le remonte, elle fait une bouse sur l'oiseau. Et ce qui fait que le petit oiseau, qui est tout gelé, en train d'imaginer qu'il va mourir, reçoit cette boule sur lui et il sent une chaleur. Et peu à peu, il y a ses ailes qui commencent à se décrisper, le froid s'en va, il se sent bien. Et alors, il commence à être tellement content qu'il dit, « Oh, je suis trop bien, c'est vraiment trop fort, je sens que je vais pouvoir repartir. » Puis il est là, sous sa bouse bien chaude, bien au chaud, puis oh, 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 c'est moi l'oiseau qui vais repartir, je suis trop fort, il est super content. Puis arrive un renard. Et le renard voit cette chose-là et il se dit, mais c'est la première fois que je vois une bouse qui chante. Il voit une bouse qui chante et il comprend pas ce que c'est que cette bouse qui chante. Donc il s'approche de la bouse qui chante et il regarde, il touche ça, et il découvre sous la bouse qui chante, il découvre quoi? Le petit oiseau, et il le mange. Alors, il y a 4 leçons à cette histoire-là. La première leçon, c'est tous les gens qui qui ont lâché une boule sur toi n'avaient pas nécessairement une mauvaise intention. La deuxième leçon, tous les gens qui veulent te sortir de la M n'ont pas toujours une bonne intention. Troisième leçon, quand tu es dans la M, ne te fais pas trop remarquer. Parce que quand tu bouges là-dedans, d'abord ça fait des odeurs et tout le monde se demande ce qui se passe. Et tu risques d'avoir des ennuis. Quatrième leçon, il y a quelqu'un qui cherche à te dévorer. Donc ce matin, on va parler de ces quatre leçons du petit oiseau, la leçon de l'histoire du petit oiseau, de la vache et du renard. Au moins, je suis sûr que tout le monde a compris le début de mon message ce matin. Voilà donc, il y a quelqu'un qui cherche à te dévorer. Et ça, c'est une des quatrième leçon qu'on va voir ce matin. Nous entrons maintenant, après ces deux mois, on a fait une série sur l'adoration. Nous entrons dans une série de deux mois dans notre église sur la transformation dans nos vies, au novembre et décembre. Chaque orateur qui va venir, la semaine prochaine c'est Christiane, et puis ce sera d'autres, Isabelle, Sandrine et d'autres vont intervenir. Et chaque fois, ils vont nous raconter dans la Bible des hommes de Dieu qui étaient dans la bouse et comment ils en sont sortis. Hein? Et comment on peut tirer des leçons pour nos vies de ça, pour nous-mêmes être transformés. Donc nous avons été créés pour devenir à l'image de Dieu. Notre but dans ces deux mois, c'est que l'image de nous-mêmes change. Nous avons été créés pour devenir à l'image de Dieu, et quand Dieu nous a destinés au salut, il avait une intention pour notre vie. Son intention, c'est pas juste de nous rendre heureux, son intention, c'est de nous rendre à l'image de son Fils Jésus-Christ. Romains 8, 29, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Ce que Dieu vise dans nos vies, c'est reproduire l'image de son Fils. C'est ça ce qui l'intéresse par-dessus tout. Et s'il faut des bouses pour le faire, il emploiera des bouses. S'il faut des moments d'épreuve dans nos vies, il saura utiliser tous les moyens parce que son but est que nous devenions à l'image de Jésus. Dieu ne vise pas un bonheur facile, il vise que nous devenions comme Jésus et il sait que le vrai épanouissement réside là et pas ailleurs. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a discernés et les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, Romains 8, 29. Donc les intentions bienveillantes de Dieu, Romains 8, 28, sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Alléluia. Les intentions bienveillantes de Dieu, Romains 8, 28, sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est pas parce qu'à un moment donné, il t'arrive une bouse, qu'il y a nécessairement une mauvaise intention derrière. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc Dieu ne vise pas pour nous un bonheur facile, mais que nous devenions comme Jésus. Laissez-moi vous montrer une autre petite histoire ici. C'est l'histoire d'un papillon. Si je retrouve mon papillon, voilà mon papillon. On fait un peu de zoologie ce matin. Un jour apparut un petit trou dans un cocon. Un homme qui passait par là s'arrêta de longues heures à observer le papillon qui s'efforçait de sortir de son petit trou. Il était coincé dedans et il voulait en sortir. Après un long moment, c'était comme si le papillon avait abandonné. Il était vraiment épuisé, on aurait cru qu'il allait mourir. Le trou demeurait toujours aussi petit. On aurait cru que le papillon avait fait tout ce qu'il pouvait faire et que là maintenant il allait mourir. Alors l'homme décida d'aider le papillon. Il prit un canif et il a ouvert le cocon. Le papillon sortit aussitôt. Mais son corps était maigre et engourdi, ses ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. L'homme continua à observer pendant que, d'un moment à l'autre, les ailes du papillon s'ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du papillon pour qu'il prenne son envol. Mais rien. Le papillon passa le reste de son existence à se traîner par terre avec un corps maigre et des ailes rabougries. Jamais il n'a pu voler. Pourquoi ? Ce que l'homme, avec son geste de gentillesse, son intention d'aider, toute personne qui t'aide à en sortir n'a pas nécessairement une intention qui te fera du bien. Avec cette intention d'aider, ne comprenez pas que c'est le passage par le trou étroit du cocon. C'est quand tu es dans l'épreuve, c'est le passage par le trou de la transformation qui fait que tu ressors en étant une personne changée. et Dieu veut nous changer. Et dans ces deux mois, Dieu veut nous changer. Et tout au long de nos vies, Dieu veut nous changer. Pour qu'on ressemble à Jésus, notre bonheur, c'est Jésus. Notre épanouissement, c'est pas juste être zen et avoir un bon compte en banque. Notre épanouissement a une image, le caractère de Jésus-Christ en nous. Plus je ressemble à Jésus dans mon caractère, moins je suis souffrant. C'est pourquoi le bonheur, c'est de ressembler à Jésus. Plus on ressemble à Jésus, mieux on se porte. Ça, c'est ce que Dieu vise. Alors, c'était le moule à travers lequel la vie allait faire passer ce papillon pour qu'il puisse grandir et se développer. Parfois, l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans nos vies. Si on nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer d'obstacles, nous serions limités, nous ne pourrions pas être forts, nous ne pourrions jamais voler ou avancer dans la vie. Alors, j'ai demandé la force et la vie m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé la sagesse et la vie m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et la vie m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé de pouvoir voler et la vie m'a donné des obstacles à surmonter. J'ai demandé l'amour et la vie m'a donné des gens à aider dans leurs problèmes. J'ai demandé des faveurs et la vie m'a donné des potentialités. Je n'ai rien reçu de ce que j'ai demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Dieu m'a répondu par surprise, comme il fait souvent. Et c'est pourquoi je voudrais dire ce matin que je crois vraiment que dans nos vies, il y a quelque chose que le Seigneur veut transformer, comme avec cette histoire du papillon ici. Jésus veut transformer nos vies. Alors, cette image de Jésus qui va venir sur nous, elle est exactement comme avec un appareil photo. Tous ceux qui ont fait de la photo savent que vous saisissez quelque chose dans la pellicule, c'est déjà là, c'est saisi, mais le révélateur fera connaître ce qui a été saisi dans la pellicule. Le révélateur n'est pas là pour créer la photo. Mais si vous êtes allé déjà dans ces petits labos, ou parfois même dans les salles de bain, on faisait ça, certains l'ont fait, puis vous étiez là, vous regardiez un petit peu, vous mettiez ça dans le produit, un peu sous l'eau, et vous regardiez ce qui avait été saisi sur ce papier, ou sur la pellicule, était en train d'apparaître sur ce papier-là. C'était simplement révélé. Et la Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ, et que l'éternité ne fera que mettre en évidence ce que tout au long de notre vie, nous aurons laissé le Seigneur gravé au-dedans de nous. Attention, comme Rick Warren nous le dit, tu vas passer l'éternité avec ton caractère. Et il vaut mieux que tu t'entendes bien avec toi. Il vaut mieux que l'image de toi-même ait changé. C'est pourquoi change-moi, Seigneur. On va passer l'éternité avec le caractère que nous aurons laissé le Seigneur gravé dans nos vies. C'est exactement comme ces pellicules photos. Votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous allez paraître avec lui. Ce que Christ a fait en vous va être révélé. Donc maintenant, on va revenir à notre 4 leçons, parce que là, ça nous servait de toute l'introduction avec l'histoire de l'oiseau. On va revenir aux leçons de l'oiseau. Donc Dieu veut utiliser des moyens humains pour nous toucher et nous transformer. Dieu travaille nos vies et il utilise les moyens qui nous entourent. Il est prêt à faire toutes sortes de choses pour ça. Et la Bible nous dit dans Romains 8, 15, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui, j'estime en effet que les souffrances du temps présent, les petites bouses de chaque jour, n'ont rien de comparable avec la gloire qui sera révélée pour nous. Et toute la parole de Dieu nous révèle cela. Dieu utilise des moyens humains pour nous transformer. S'il s'agit de deux tableaux sur Joseph, derrière la bouse de ses frères, quand ils l'ont livré ici, il y avait un plan de Dieu pour qu'il devienne l'homme que Dieu voulait qu'il soit, pas seulement dans sa position, mais dans le caractère qui permettrait à Dieu de lui donner sa position. Nous sommes aussi héritiers. Le caractère qui allait lui permettre de devenir, de recevoir l'héritage que Dieu a promis. Dieu avait un grand plan pour lui, mais il fallait que Joseph passe par cette transformation pour que Dieu lui confie sa mission. Il y a des personnes qui vont rester dans le cocon, et même il y en a qui vont rester comme ce papillon, parce que simplement, si tu cherches la vie facile sans la puissance des épreuves et de la transformation, Dieu ne pourra jamais te confier l'héritage qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi nous voulons dire « Transforme-moi, Seigneur, pendant ces deux mois. » Et si vous êtes avec moi, vous dites « Amen. » Alors, Dieu utilise des moyens humains pour nous transformer. Je vous disais pour Joseph, Joseph 50, verset 20, ce verset qui était ici, nous dit « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin que ce qui arrive en ce jour puisse sauver la vie d'un peuple nombreux. » Donc Dieu change même le mal en bien. Ensuite, Moïse. Si vous pensez à Moïse, rejeté par ses frères, le jour où lui voulait libérer son peuple, mais il ne s'est pas bloqué sur la crasse qu'ils m'ont fait. Moi, je suis appelé par Dieu pour les libérer. Bam, ils m'ont rejeté. C'est comme ça, je vais dans le désert, je ne veux plus jamais entendre parler d'eux. Moïse n'a pas passé sa vie à se nourrir de la bouse qu'il avait reçue de ceux qui l'ont rejeté. Il y en a qui en bouffent trop. Et depuis trop longtemps. Et tu te nourris de ça. Tu te nourris constamment. Tu nourris ton âme, tu nourris tes pensées, tu nourris tes émotions constamment de la bouse que tu as reçue à un moment donné et tu es en train de pourrir ta vie. Mais Moïse s'est écarté, il a accepté cela. Mais derrière cette crasse, cette bouse des frères qui l'ont rejeté, il a découvert le plan de Dieu. Et le moment où Dieu l'a appelé, il était devenu le berger préparé dans son caractère pour recevoir l'héritage de sa mission sur terre. C'est pareil pour David. Comment David serait devenu le roi selon le cœur de Dieu s'il n'y avait pas eu Saül, s'il n'y avait pas eu Goliath? Sans Goliath, David n'aurait pas été révélé. Sans Saül, il n'aurait jamais eu l'armée qu'il a eue. Il serait rentré au palais, la vie facile, rentré au palais, devenu un petit roi mou et peut-être corrompu, mais il a dû se battre dans sa vie et tous les vaillants hommes qui étaient en Israël et en Juda le rejoignaient à la caverne où il était. Et il a eu l'armée des vaillants hommes qu'il a eu parce que lui-même était un homme éprouvé, devenant vaillant par l'épreuve. Dieu utilise des moyens humains pour nous transformer afin de pouvoir nous donner l'héritage que nous devons recevoir. Derrière les circonstances difficiles, les bouses si vous voulez, il n'y a pas forcément une mauvaise intention. Derrière la croix, il n'y avait pas une mauvaise intention. Certains voient la croix comme la plus grande des crasses qui soient arrivées, la plus grande des injustices qui soient arrivées. Mais derrière la croix, il y avait un plan de bénédiction de Dieu. Parce que c'est par la croix que nos péchés ont été effacés, Colossiens 2:15. C'est là qu'il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est là qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, qui nous délivre des démons. C'est par la croix que dans ces meurtrissures nous avons été guéris, nous dit 1 Pierre 2:24. C'est par la croix qu'il a racheté pour Dieu un peuple de toute langue, de toute nation, de toute tribu. C'est par la croix. Et pourtant, au moment où les disciples même voyaient la croix, regardaient aux choses visibles, à l'évidence qu'ils avaient devant les yeux, et ne savaient pas voir le produit final qu'il y avait derrière. C'est pourquoi, quand tu reçois une bouse sur ta vie, ce n'est pas forcément avec une mauvaise intention qu'elle arrive sur toi. Il y a peut-être quelque chose derrière. Et c'est là tout le message de la croix, aussi ici, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi nous ne perdons pas courage? Parce que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est passager, éphémère, mais ce qui ne se voit pas demeure éternellement. Donc au moment où il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, apprends à lever les yeux au-delà de l'instantané et du ressenti instantané. Dieu a quelque chose derrière qui est grand. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, donc première leçon, c'est derrière toute bouse qui t'arrive dessus, il n'y a pas nécessairement une mauvaise intention. La deuxième leçon, ceux qui veulent vous en sortir n'ont pas toujours une bonne intention. Parce que les apparences nous trompent. Souvent, on juge avec des pensées humaines. On voudrait comprendre le royaume de Dieu et nous sommes tellement pétris d'une logique humaniste, nous ne réalisons pas à quel point nous le sommes. Alors, par exemple, dans l'histoire de Moïse ou son épouse Séphora. Un jour, Moïse prend son fils en pleine nuit, il a un couteau, il s'approche de son fils, il le prend, il l'enlève ses couches, il prend son petit zizi et il commence à couper. Et son épouse était derrière, entre « Arrête !» etc. Ça faisait une dispute conjugale terrible. Moïse lui disait « Écoute, fais pas tant de bruit, tout le monde va dire, ce dirigeant du peuple, c'est pas diriger sa propre maison, Séphora, tais-toi. » Puis elle « Mais non, t'es un époux de sang, t'es un époux, t'es un homme sanguinaire, t'es un homme violent, qu'est-ce qui te prend de couper le prépuce de notre enfant ?» Mais, je suis sûr que Si nous ne connaissions pas l'intention biblique qui est derrière, on dirait, mais Moïse, quel homme violent, quel sanguinaire, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais s'il ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui serait arrivé? Son fils, premier-né, serait mort comme sont morts les premiers-nés de l'Égypte. Alors, Séphora semble avoir un amour, elle semble avoir le beau rôle. Vous savez, dans le film, elle a le beau rôle. Oh, quand même, t'es un homme violent. Mais lui a compris que derrière, il y a une autre intention. Et à cause de cette intention, il agit avec un amour plus grand. Mais en apparence, non, il semble violent. Et ça, c'est un petit peu ce que l'on voit dans la parole de Dieu. Quand vous voyez Pierre a essayé d'aider Jésus à en sortir, vous savez. Quand Jésus lui dit qu'il va mourir sur la croix, qu'il sera frappé dans Matthieu 16, 21 à 24, il devra être tué et ressuscité le troisième jour. Pierre le prend à part et se met à le reprendre en disant, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais !» Alors nous, on aurait pu dire, « Bah, ce Pierre, c'est vraiment quelqu'un qui est un vrai chef, un homme d'initiative, un homme qui protège son mentor, son maître. Regarde ça un peu, Pierre, Jésus va être menacé, mais voilà ce que Pierre est capable de faire. Il se lève pour défendre Jésus. Ce qu'il y a, c'est que Jésus n'a pas du tout vu la chose sous cet angle-là. Jésus lui répond, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les humains, et tu es un piège pour mon obéissance à Dieu. Et si je ne passe pas dans l'obéissance à Dieu, je ne recevrai jamais l'héritage que Dieu a pour moi. » Jésus avait vu derrière l'intention. Alors tu sais, quand quelqu'un juste essaye de te sortir de l'épreuve, d'un moment difficile, juste de dire, mais non, t'as pas besoin de vivre ça, etc. Attention, il n'y a pas toujours une bonne intention derrière la personne qui veut te sortir de l'épreuve le jour où tu es dans la M. La foule incitait Jésus à descendre de la croix. La foule disait, mais toi-même, tu as détruit le sanctuaire et tu le reconstruis en 3 jours, tu dis. Alors sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les prêtres disaient, s'il descend de la croix, nous croirons en lui. Toute personne qui vous aide à sortir de l'épreuve n'est pas forcément bien intentionnée, selon Dieu. Un des brigands sur la croix disait, mais sauve-toi toi-même et sauve-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu, nous dit Luc 23, 39. C'est étonnant. On voit rarement des gens se préoccuper de Jésus, du bien-être de Jésus. Mais ce jour-là, il a une foule de gens qui se préoccupent de son bien-être. Non mais arrête avec la croix, ça fait mal, tu sais, ça fait mal. Comme s'il ne savait pas. Il est en train de... Non mais descends de la croix. La foule lui dit de descendre. Les disciples lui disent tu n'y vas pas. Les prêtres disent si tu descends de la croix, maintenant on croira en toi. Les brigands lui disent descends de la croix si tu es fils de Dieu. Constamment il est éprouvé à sortir de l'épreuve par un chemin humain au lieu d'accepter, de tenir, d'endurer, de continuer en donnant gloire à Dieu et en disant « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli !» Et parce que Jésus a pu dire « Tout est accompli, nous sommes sauvés aujourd'hui » et il a reçu l'héritage, parce qu'il a accepté d'endurer, parce qu'il n'a pas accepté la sortie bon marché que certains lui proposaient, la sortie humaniste, la sortie facile. Nous ne sommes pas en sucre, mes amis. Nous ne sommes pas appelés juste aux choses douces et faciles dans nos vies. Nous sommes appelés à suivre celui qui est le Seigneur souffrant. Alors un véritable ami, c'est pas quelqu'un qui vous tire juste au moment de l'épreuve par un chemin facile. C'est quelqu'un qui vous aime assez pour vous encourager et vous soutenir à continuer à obéir à la voix de Dieu. Ça, c'est un véritable ami. Les autres, ce sont des faux amis. Les personnes qui veulent vous en sortir par un chemin autre que le chemin de Dieu sont de faux amis, je vous le dis. Ils vous priveront de votre héritage à long terme. Sur le moment, ça semble un soulagement, comme la coupe de vin et de fiel qu'on donnait à Jésus. Un petit soulagement dont on va sortir. Ah, merci beaucoup, parce que je souffre tellement que ça me soulage. Mais tu ne vois pas que derrière, tu es privé de passer par ce trou qui te transforme en l'homme, en la femme que Dieu veut que tu sois, afin qu'il te confie l'héritage qu'il a prévu pour toi et que tu baignes dans le bonheur de la volonté de Dieu. Amen. Prenez donc garde que quelqu'un n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi, qui s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement. Encouragez-vous à quoi ? À faire la volonté de Dieu, à continuer avec la parole de Dieu, continuer dans l'église, continuer dans la louange à Dieu, continuer dans les disciplines fondamentales de la parole de Dieu. Parce que là, vous allez hériter, vous allez hériter, vous allez hériter. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on peut continuer à faire ces choses-là. L'apôtre Paul lui-même a connu cette chose-là. Quand il est dans Actes 21, versets 10 à 14, un prophète nommé Agabus arrive, prend la ceinture de Paul, et qui devait traîner par là, il n'était pas marié, donc il ne rangeait pas sa ceinture, comme vous, messieurs, qui la rangez toujours, qui êtes mariés. Et donc, lui, il n'était pas marié, alors il laissait traîner sa ceinture, donc le prophète prend, et il se met la ceinture autour des pieds, et il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture va souffrir beaucoup à Jérusalem. À ce moment-là, les disciples qui sont là disent, nous sommes venus supplier Paul, ne monte pas à Jérusalem. Alors Paul a répondu, qu'avez-vous à pleurer, à me briser le cœur? Moi je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Ils étaient en train de rendre l'obéissance de Paul plus difficile. Le sentimentalisme et l'humanisme s'opposent à la connaissance de Dieu. Quand nous voyons les choses sur le plan humain seulement, au lieu de voir l'intention que Dieu a derrière, nous n'aimons pas comme Dieu veut que nous aimions. Nous devenons égoïstes. Ah, Paul, s'il te plaît, reste avec nous. Paul, reste là. Et Paul, arrêtez. C'est déjà difficile pour moi d'aller me faire souffrir à Jérusalem sans que vous veniez en plus essayer de me supplier de ne pas y aller. J'ai tellement souvent la voix du diable qui vient me le dire dans la tête, s'il vous plaît, laissez-moi obéir à ma vocation. Voilà un homme de Dieu. Voilà un homme de Dieu. Alors, fréquentez des personnes sûres qui vont vous fortifier, qui vous inspirent dans l'obéissance, dans la foi, à continuer vos disciplines spirituelles. Car toute personne qui veut vous épargner une peine, une épreuve, n'est pas forcément inspirée par Dieu. Deuxième leçon du petit oiseau, la vache et le renard. Troisième leçon, dans l'épreuve, ne te fais pas remarquer. Une bouse qui chante, c'est suspect. Donc, dans l'épreuve, ne te fais pas remarquer. Nos réactions à la souffrance révèlent davantage notre ressemblance à Jésus que n'importe quoi d'autre. Nos réactions à la souffrance, parce qu'il y a des moments, on souffre, mais tout le monde souffre. Les incroyants souffrent, les croyants souffrent. La seule chose, c'est que nous savons dans quel sens nous souffrons et pourquoi nous souffrons. Nous n'avons pas toujours les mêmes souffrances. Et à différents moments de nos vies, ça change. Mais il y a une peine, il y a une lutte, il y a un combat dans ce monde. Il y a les problèmes de la vie courante dans un monde déchu, c'est difficile. Il y a les problèmes de nos caractères, de notre croissance, de nos relations, des évolutions de la vie, des imprévus, toutes sortes de problèmes qui arrivent, parfois des deuils, parfois des cassures relationnelles, parfois toutes sortes de choses qui sont difficiles. Mais nos réactions dans ces moments-là révèlent plus que toute autre chose quelle est notre ressemblance à Jésus. Comment est-ce qu'on va réagir à ce moment-là? 1 Pierre 2, 20 et 21 nous dit « Si vous endurez la souffrance, tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne disait pas d'injure, maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Ésaïe 53, verset 7 nous dit, « Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. » C'est par la bouche que sort la révélation de ce que nous sommes au jour de l'épreuve. L'épreuve appuie sur notre cœur et la bouche parle. Il n'a pas ouvert la bouche. Ça, c'est un maître. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette. Salut, maître. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, une troisième fois, dans ce texte d'Ésaïe 53, 7. Et Jacques nous dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole quand il est éprouvé, il est en train de parler de l'épreuve, et nous dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, sa foi et ses paroles sont bien mariées. Quand il dit c'est un homme parfait, c'est un mari parfait. Sa foi et ses paroles sont bien mariées. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. Alors dans l'épreuve, quand on vient pour tuer un agneau, l'agneau d'abord, certains disent parce qu'il est bête, mais c'est pas sûr, c'est parce qu'il est innocent, il ne sait pas ce qui va lui arriver, en tout cas il ne dit rien, peut-être il le sent, mais il ne dit rien, il n'ouvre pas la bouche. Comment tu réagis au moment de l'épreuve? Comme un agneau? Ou alors est-ce que tu ouvres le groin, comme celui qu'on voit ici à droite? Le groin qui s'ouvre au moment de l'épreuve. Et vous savez, tout le monde sait, moi j'ai vécu à la campagne dans le Tarn-et-Garonne, tout le monde, quand on entendait avec l'accent « Dimanche, on tue le cochon », je peux te dire que tout le village le savait, que le cochon allait être tué. Et si les gens ne savaient pas, ils allaient l'entendre, que le cochon allait être tué. Parce que il crie, il s'agite de tous les côtés, il s'agite, même quand le couteau est déjà rentré, tu crois qu'il est mort, il se secoue encore, et si tu es autour, mets pas une chemise blanche, parce que ça gicle très fort. Donc, s'il te plaît, dans l'épreuve, ne gicle pas. Ne gicle pas au moment de l'épreuve. Nous sommes dans une génération qui n'aime pas endurer. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ça veut dire, le mot patience, c'est pas de la passivité. C'est littéralement en grec, c'est le mot porter un joug jusqu'à la fin. Donc, heureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de la patience de Job, l'endurance. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Job devait passer par le trou du cocon pour recevoir l'héritage qu'il attendait de l'autre côté. Tu n'auras pas ton héritage sans passer par le trou. Et c'est la même chose pour moi. Et de ce côté-là, Dieu n'a que des chouchous. Il veut donner les héritages à tout le monde. Dieu n'a que des chouchous. On est tous appelés à recevoir notre héritage. Et l'héritage est juste de l'autre côté du trou du cocon. Et c'est par là qu'il nous faut passer. Mais également, tout à l'heure je vous parlais de ce fiel, cette coupe de fiel et de vin mélangé qu'on a voulu donner à Jésus. Et il nous a dit que, arrivé au lieu qu'on appelle Golgotha, lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il n'a pas voulu boire. Jésus a goûté, il n'a pas avalé. Il a recraché le vin mêlé de fiel. Qu'est-ce que c'est? Le fiel, c'était une plante venimeuse qui poussait dans les champs. Et elle était très amère, mais mélangée à du vin, elle pouvait soulager momentanément, comme une drogue. Elle soulageait parce que ça saoulait la personne, mais quand ça arrivait dans les entrailles, c'était rempli d'amertume. C'était terrible, c'était brûlant, rempli d'amertume. Et on donnait ça aux gens qui allaient souffrir atrocement, comme on donnait l'agneau en 14 pour les gens, on saoulait les soldats dans les tranchées. Bien là, on leur donnait ça au moment de la souffrance, mais... dans ce vin, il y avait une amertume terrible, le fiel. Et quand Jésus, au moment de la souffrance, on a tous envie de quelque chose qui peut nous soulager vite. Et si quelqu'un vient nous proposer, même du fiel, à avaler, quelqu'un vient te propose quelque chose, tu dis, ça va me soulager, alors je vais l'ouvrir ma bouche. Et puis je vais dire, comme Job, à un moment donné, il est en train de craquer, il est en train de... Bon, mais je vais dire vraiment tout ce que je pense de Dieu. Et il le dit avec un cœur sincère, complètement sincère, c'est vrai, mais à un moment, il débloque totalement. Parce qu'il est en train de parler par la souffrance. Et le jeune Élieu va lui dire, mais attention, garde ton cœur, parce que la souffrance te dispose à dire de mauvaises choses de Dieu. La souffrance te dispose à mal voir les choses. Dans la souffrance, on devient un peu fêlé. On voit les choses en décalé. On voit pas la réalité. Et là, on vient dire, est-ce que tu veux ce fiel? Et Jésus, quand il l'a goûté, il a vu qu'il y avait du fiel, l'a recraché. Laisse-moi te dire une chose, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois dans ma vie, au moment de la souffrance, de sentir le goût du fiel. Soit on me l'a donné, soit je me le suis servi. Petite coupe, histoire de se soulager. Et quand le fiel de l'amertume est juste là dans la bouche, fais comme Jésus, souviens-toi. Quand il a goûté, il n'a pas voulu l'avaler. N'avale pas le fiel. Recrache ce fiel. Et ce matin, si tu sais que tu as avalé du fiel, si tu sens le fiel, l'amertume dans tes entrailles, eh bien, au début de ces 2 mois, viens dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Purifie-moi, lave-moi par le sang de Jésus-Christ qui a coulé, pour que je sois purifié du fiel que toi tu n'as pas avalé, que moi j'ai avalé dans ma vie, afin que tu puisses grandir. Jésus l'a recraché, il a refusé d'avaler le poison de l'amertume. Au moment où nous sommes éprouvés, souvenons-nous, recrachons l'amertume, parce que tant de gens sont piégés par ça. Et derrière toutes ces réactions possibles, de ne pas vouloir endurer, de crier comme un porc, ou d'avaler le fiel de l'amertume, il y a quelqu'un qui guette l'occasion. Quelqu'un aimerait bien te dévorer. Soyez soyez sobre, veillez, nous dit la Bible. Votre ennemi, l'esprit du mal ou le diable, rôde comme un lion rugissant. Et il va partout. Partout. Donc aussi dans les églises, dans les groupes de maisons, dans les foyers. Il va partout où il n'est pas chassé. Alors quand nous le chassons, il ne peut pas rester. Mais il va partout. Et il cherche. Il cherche quoi ? C'est le renard qui veut manger le petit oiseau qui est caché sous sa bouse en chantant. Il s'est fait remarquer sous la bouse. Et quand tu es sous la bouse et que tu te fais remarquer, il y a quelqu'un qui a remarqué que tu es sous la bouse. Et c'est là qu'il vient chercher ses proies. C'est tellement plus facile pour lui de prendre les gens dans la bouse que prendre le petit oiseau à 10 000 mètres d'altitude. C'est trop pour lui. Le renard n'y va pas. Alors, certains, c'est vrai, voient le diable partout, en parlent tout le temps, ils voient le diable n'importe... Quelqu'un a pris ta place au moment où tu passes à la caisse, on te passe devant, tu dis ça c'est un coup du diable, etc. Tu vois le diable partout, donc c'est pas du tout ce genre de superstition, de propos que je voudrais encourager à tenir ici. Je n'aime pas du tout les excès de ce type-là. Mais d'autres ne le voient nulle part, ou l'ignorent. Écoutez, c'est pas parce que vous l'ignorez qu'il ne travaille pas, qu'il ne cherche pas, qu'il n'existe pas. Le diable bosse. Et je suis même pas sûr qu'il ait ses 5 semaines. Et donc, je crois qu'il travaille et qu'il y a une activité dans laquelle il cherche qui il va pouvoir dévorer. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, nous dit Jean 10:10. C'est pourquoi, soyez sobres, votre ennemi rôde. La Bible nous prévient que c'est une réalité. Il y a un ennemi spirituel qui cherche à détruire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une image, c'est une réalité concrète. Cet ennemi travaille autour de nous et si on n'est pas conscient, on subit. C'est pourquoi je voulais te dire une chose. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Certains font le contraire. Vous avez remarqué ça ? Certains résistent à Dieu et se soumettent à toutes les pensées que le diable donne. C'est pour ça qu'on a besoin d'une prise de judo spirituelle appelée repentance. C'est-à-dire que tu as besoin d'être retourné là. Tu vois ? Repentance, retourné. Non, tu fonctionnes complètement à l'envers. C'est pas soumettez-vous au diable et résistez à Dieu. C'est soumettez-vous à Dieu. Ce matin, soumettez-vous à Dieu. Qu'il n'y ait rien dans mon cœur qui soit comme une résistance, un voile. Parce que cette résistance va donner accès au malin. Oh, le diable est après moi. Donne pas accès. Résiste. Combat. Est-ce que tu as donné accès au diable? Si oui, s'il y a eu le fiel, si tu t'es fait remarquer sous la bouse, en train d'ouvrir le groin, eh bien, dis Seigneur, pardonne-moi, crée en moi un cœur pur, s'il te plaît, purifie-moi. C'est quand tu te soumets à Dieu que tu as la puissance de résister au diable. Les gens soumis à Dieu ont la puissance parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as la puissance, il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mais c'est vrai que si nous ne sommes pas soumis à Dieu, quelle force nous avons au moment où nous commandons à Satan, quelle autorité nous avons? La nôtre, notre petite voix. Et cette petite voix-là, elle n'est pas forte. Hein? Elle n'est vraiment pas forte. Mais quand tu te soumets à Dieu, tu as la puissance pour résister au diable. Mais résiste au diable, s'il te plaît. Ne sois pas passif dans ta vie. Le diable vient et il te parle et il te frappe. Ne soyez pas une tête à claque pour le diable. Ça veut dire que le diable s'approche d'un chrétien et le chrétien est passif. Le diable, pan, 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 pan. T'en prends, mais t'es juste là. C'est dur en ce moment. C'est dur. Mais sois pas une tête à claque. Bats-toi. Le diable cherche des chrétiens tête à claque, des gens qui résistent jamais. La Bible nous commande, soumettez-vous à Dieu, mais la Bible nous commande, résistez au diable, commandez-lui de partir, soyez remplis de l'esprit qui met le diable en fuite. Amen. Ne subissez pas les assauts du diable dans vos pensées. Où le diable agit le plus, c'est dans les pensées. C'est là qu'il vient pour suggérer des choses. Et il commence toujours de la même façon. Au départ, il suggère quelque chose. Ce qui n'est pas vrai, mais il suggère quelque chose. Si tu ne résistes pas, il va affirmer ce mensonge-là. Et si il affirme, peu à peu, tu le reçois. Et il met tout en doute. Écoutez, expliquez-moi comment ça se fait que n'importe quel sujet qu'on parle, Il y a toujours une parole de doute qui vient. Si on parle de la Bible, oui, mais comment savoir si la Bible est réellement inspirée par Dieu? Comment on peut être sûr que ce sont vraiment des livres qui viennent de... qui a vraiment le souffle de Dieu, c'est Dieu qui n'a pas écrit ça quand même? Comment on peut être sûr? Si on parle du baptême dans le Saint-Esprit, les dons de langue, par exemple, parler en langue avec lequel on s'édifie nous-mêmes, ou attends, mais comment savoir que ça vient de Dieu et que ça ne vient pas de moi-même? Et puis on parle de l'Église. Oui, mais comment on peut dire qu'aller à l'Église, ça nous garde plus fort que simplement si je peux rester tout seul chrétien à ma maison? N'importe quel sujet, il y a toujours le diable qui l'ouvre. Et sur chaque domaine, il vient mettre des pensées. Et si tu accueilles cette pensée-là, elle devient en toi une forteresse. C'est pourquoi ne subissez pas les assauts du diable. Le seul résultat que vous obtenez en ressassant perpétuellement vos mauvaises pensées, vos tourments, vos soucis, sera de créer un monstre en vous. Et ce monstre, il se nourrit des pensées négatives. Ça, il mange. Il se nourrit des scénarios catastrophes. Et tu vois, mon avenir, un scénario catastrophe. Des sentiments dévalorisants. Il aime ça, c'est son dessert. Le cynisme. L'incrédulité, bah, de toute façon, c'est pas possible, on dirait que ça marche toujours que pour les autres. Bref, il mange du négatif. Le petit monstre que peut-être certains ont accueilli en eux, chez eux, dans leur, il naît dans les pensées, et il peut rester tout petit, 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 comme un œuf que tu détruis, ou il peut devenir un gros monstre. Tout dépend comment tu le nourris. Et donc, certains ont décidé de faire une vraie bonne alimentation. Et de le nourrir, et de le nourrir, et de le nourrir. Vous avez un gros monstre. Mais ce matin, je voudrais vous encourager à l'affamer. À l'affamer. Parce que les pensées sont le terrain favori du combat spirituel. Il y a un combat spirituel. La Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre les humains. Mais il y a un vrai combat. Cet esprit destructeur est là. Il y a quelqu'un qui veut détruire ta foi, qui veut te dévorer, qui veut détruire ton espoir de vivre, qui veut détruire ta joie de vivre. Il y a quelqu'un qui veut te remettre dans l'état où était Lélio, qui nous a, avant sa conversion à Jésus-Christ, dont il parlait ce matin. Quelqu'un veut te ramener là-dedans. Et il utilise les pensées pour cela. Mais l'apôtre Paul nous dit, nous ne combattons pas selon la chair. Mais voilà ce que nous faisons. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à Jésus-Christ. Quand une pensée tourne dedans de nous et qu'on dit, cette pensée-là, elle n'est pas vraie, elle n'est pas pure, elle n'est pas juste. Non, j'amène ça à Jésus, c'est faux. Arrière de moi, Satan. Le chrétien fait cela, il ne prendra pas. Celui qui ne fait pas, pan ! Il recommence. Voilà. Une tête à claque. Soyez, je voudrais vous aider ce matin. Je voudrais vous aider, pas juste le moment du culte, mais pour votre vie comme pour ma vie. Ne soyons plus des têtes à claque. Arrêtons d'en prendre sans arrêt dans la figure, juste en disant, oh, 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 c'est dur, oh, on m'avait dit que Jésus donne le bonheur. Oh, oh. Oui, Jésus donne le bonheur, mais après le trou de transformation qui va te changer à un guerrier, à une personne qui se bat, tu vas réagir. Quand est-ce que t'en auras marre d'en prendre trop dans la tête? Pour qu'enfin tu te lèves et que tu dises, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Et là, quelque chose peut changer dans ta vie. Parce que tu vas commencer à amener les pensées captives de Jésus-Christ. Les pensées, c'est le terrain favori du combat spirituel. Ce petit monstre vient demander de la nourriture constamment, constamment. Les soucis se développent en proportion des pensées négatives que vous fournissez. C'est pourquoi affamez-le, comme la Bible dit. Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Ah là là, il va jeûner. Hier soir, à un moment donné, je suis parti d'inquiétude. Hop ! Non, non, tu ne l'auras pas celui-là, le sachet n'est pas ouvert. J'ai juste vu, je n'ai pas ouvert. C'est fini, tu ne manges pas. Et je vous assure, c'est une discipline. Mais c'est un combat. C'est un combat. Et il ne mourra pas. Jésus-Christ a été crucifié sur le mont Golgotha, lieu du crâne. Là où sont les pensées. Et c'est le terrain favori du combat spirituel. Le combat spirituel commence dans nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu, avec des prières, des supplications, des cris et des remerciements à l'avance. Il y a une chose, oui, à l'avance, des actions de grâce. Je voudrais vous dire pourquoi c'est à l'avance. Je voudrais essayer de vous expliquer quelque chose que je viens de comprendre cette semaine. Et je suis content de temps en temps quand je comprends quelque chose de neuf. J'aime comprendre des choses neuves avec Dieu. Alors, j'ai compris une chose. L'histoire humaine, c'est un défilé. Imaginez un défilé de 14 juillet, un grand défilé. C'est l'histoire humaine. Nous, on est derrière une petite barricade, quelque part. Et derrière cette barricade, il y a un trou. Nous, on regarde le défilé passer. Et on dit, je vois des soldats bleus, je vois des majorettes rouges, je vois un tank. Ça, c'est mon actualité. Mais Dieu voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi ? Parce que lui, il ne voit pas le défilé par le petit trou de la barricade. Il est monté en haut de la tour Eiffel et il voit juste tout le défilé en entier. Et il dit, non, mais je t'assure, il y a des soldats habillés en vert. Ah, mais non, moi je ne les vois pas, je vois juste les bleus. Je te dis, la réalité, les soldats habillés en vert. Parce que nous avons une vision tellement rétrécie. Et ça se passe encore dans nos pensées, d'accepter de croire l'image totale du défilé. Dieu le voit en entier. Amen. Lamentations 3.20 nous dit, quand je pense à ma détresse, c'est l'heure du goûter, petit monstre, je pense à ma détresse, je pense à ma misère, goûter abondant, je pense à l'amertume, l'apéro maintenant, c'est rapproché, hein, dirait Jean-Noël tous les jours. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Ben, je sais, oui. Chaque fois que le monstre grossit, ton âme maigrit. C'est comme ça. Il y a une seule place au-dedans de toi. Et s'il prend du poids, toi, t'es obligé de te serrer. Donc, quand je pense à la nourriture du monstre, mon âme est obligée d'être à l'étroit dans la petite, et se sent en prison. Mais voici ce que je, et elle est abattue dans moi, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui va me donner de l'espérance. Ce qui fait que je vais reprendre de la place. Ce qui fait que le monstre va sortir de ma maison. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de Dieu est grande. Et tout ce qu'il a promis s'accomplira dans ma vie. Mon Dieu est puissant, rempli d'amour. Il veut du bien pour ma vie. Il veut du bien pour notre Église. Et il va accomplir des choses puissantes. Alors comment ces choses se feront? Ni par puissance, ni par force. L'ennemi est vaincu depuis longtemps. Si vous voyez cette image, donc il s'agit d'un arbitre à la boxe, et il compte depuis combien de temps le boxeur est tombé KO. C'est pour ça que c'est tellement longtemps que maintenant c'est un squelette avec ses gants de boxe, et on compte 28 848 524. Il compte depuis tellement longtemps. Il y a longtemps que le diable a été vaincu. Il est vaincu depuis longtemps. Colossiens 2.15 nous dit que à la croix, Jésus a dépouillé, Colossiens 2.14, à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, en triomphant d'elles, par cette croix même. Hébreux 2.14 nous dit, il a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous servons un Dieu qui est déjà vainqueur. Ah mais moi je vois ma petite vie en ce moment par le trou de la barricade. Mais monte, monte, il y a un défilé qui dit que dans l'image totale, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Change ta vision des choses, change ta perspective. Ta foi va monter avec ça. Pas simplement tu vas voir les choses comme Dieu les voit et tu vas changer. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je terminerai ici. En vous disant comment donc surmonter et se remplir du Saint-Esprit. Pour cela, hier matin, nous en avons parlé avec les responsables des groupes de maison. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. La Bible nous dit quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de Dieu qui le met en fuite. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Quand il y a les courants, l'énergie du Saint-Esprit qui passe dans ta vie, dans nos vies, il y a des courants de guérison qui passent, des courants d'inspiration, de révélation qui passent, qui sont vrais, des choses marquées par le divin parmi nous, dans ta vie comme dans nos vies, des miracles. Dieu au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le fait. Certains disent, mais est-ce que notre Église est encore charismatique? Est-ce que notre pasteur veut que nous soyons encore charismatiques? Oui, à 100%. Ce n'est pas parce que Je ne cherche pas les manières charismatiques, je ne cherche pas la puissance charismatique. Les manières charismatiques m'importunent au plus haut point. Mais la puissance du Saint-Esprit, je la désire au plus haut point. Et ce n'est pas parce que je suis en train d'essayer de réfléchir avec vous comment être le plus pertinent pour cette génération dans nos manières que nous devons à cause de cela renoncer à la puissance. Loin de là! Loin de là, aspirons à la puissance de Dieu, à la puissance de Dieu dans laquelle on voit des chrétiens vainqueurs, joyeux, remplis de l'esprit, fermes, combattants, priant pour les malades, évangélisant leurs amis autour, que l'on voit des croyants qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire, nous avons besoin de la prière personnelle et du jeûne pour se remplir du Saint-Esprit. Est-ce que vous priez? Je voudrais vous demander, est-ce que vous prenez un moment de jeûne de temps en temps? Nous avons besoin de jeûne et prière dans cette église. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion que l'on reçoit chaque fois qu'on tourne les mains dans le sens de recevoir. Le Saint-Esprit est une personne qui vient au-dedans de nous quand il voit que nous avons faim et soif des choses d'en haut. C'est pourquoi rien ne le démontre plus que le temps de jeûne et prière. Nous voulons du Saint-Esprit, pas de manière charismatique, mais le Saint-Esprit, nous en voulons, de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, prie, prends les temps de jeûne. Est-ce que tu es dans les groupes de prière qu'on appelle les triplettes ici? C'est dans ces moments-là que ça fait une différence dans nos vies. Quel est ton engagement à ce sujet? C'est pourquoi aussi, vis avec un cœur humble, soumis à la puissance de Dieu pour que tu puisses résister au diable. Vis avec un cœur repentant. Cette semaine qui est passée dans tous nos groupes de maison, le sujet était la repentance. La repentance, c'est pas une vieille réalité des siècles passés, c'est une disposition de ton cœur aujourd'hui à dire oui à Dieu. Une disposition à raconter la dernière fois que tu as eu tort à Dieu, et j'espère que c'est en 2005, en plus on est en fin de l'année. Et j'espère que c'est ces dernières semaines. Quel bonheur le cœur qui peut reconnaître fraîchement, j'ai eu tort devant Dieu, j'ai pu le déclarer, j'ai pu le confesser. Quelle joie avec les responsables des groupes de jeunes qui sont mon groupe de maison. On a eu cette soirée où on a parlé de la repentance et de voir que chacun racontait les dernières repentances. Et je vous dis, c'était pas des repentances d'il y a 10 ans. C'était pas des repentances de l'année dernière. C'était des cœurs frais qui sont en train d'être touchés par Dieu. Comment être rempli du Saint-Esprit? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Dit David juste après. Psaume 51, 12, 13, 14. Quand tu cherches un cœur pur, la puissance du Saint-Esprit se renouvelle au-dedans de toi. La vie de l'Esprit, la déclaration de la foi. Peut-être mes amis qui parleront après en parleront plus que moi. La déclaration de la foi, de prendre ses confessions de foi et de commencer à quitter ta petite barricade avec le tout petit trou, de monter et de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi se démontre par la parole. Si tu crois dans ton cœur et si tu dis de ta bouche, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce qui sort de ta bouche est toujours la démonstration de ce que tu crois. C'est pourquoi entraîne-toi. Ce sont des choses fondamentales que tu prends ici, dans la parole de Dieu, dans ces confessions de la foi que tu trouves sur la lettre de prière ou que nous avons donné dans le passé dans les écoles de prière. Si tu veux le faire, dis-le, je t'en donne gratuitement, seulement si tu t'engages à les utiliser, pas juste à les regarder, à les utiliser régulièrement. Tu te nourris de la parole de la foi, tu construis un mur, tu es en train d'affamer le monstre, tu es en train de le faire jeûner, tu es en train de le faire crever, tu es en train de le chasser de ta vie, tu es en train de créer un paradis autour de toi, parce que le paradis est l'endroit où la parole de Dieu vient, où l'Esprit de Dieu visite. Ça, c'est le paradis lui-même. Chanter les louanges de Dieu avec passion. Quand nous sommes ensemble le dimanche, ou quand tu es dans ta maison, ou dans ta voiture, chante avec passion. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, dit le psalmiste. C'est pourquoi, quand tu as une louange passionnée, alors réellement, là, il y a un pouvoir de délivrance. Dieu des délivrances, élève-toi. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est celui qui se venge lui-même de nos adversaires spirituels, celui qui veut nous détruire. C'est pourquoi je vous appelle ce matin à prendre l'offensive du Saint-Esprit. L'offensive du Saint-Esprit à ne pas vous laisser dévorer par celui qui veut vous dévorer. Fréquentez les gens qui stimulent votre foi, votre amour et votre espérance. Les gens, quand vous les quittez, votre esprit est édifié, ouvert. Vous êtes heureux. J'aime fréquenter les gens qui aiment Dieu, je peux vous dire. J'étais en Suisse il y a peu de temps avec deux, par quelques pasteurs et deux que j'ai connus mieux. Un s'appelle Henri Madava, il est le pasteur de la plus grande église d'Europe à Kiev. C'est un gars du Zimbabwe. Il dit toujours, quand les gens viennent me rencontrer, ils me disent, moi je suis l'apôtre de la Russie, moi je suis l'apôtre de la Roumanie, moi. Et lui dit, moi je suis l'apôtre des nobodies. Parce que je suis un nobody, je suis un personne. Et c'était vraiment quelqu'un qui était presque rien. Il disait pendant des années, je rentrais dans les réunions, personne ne me voyait, il n'avait aucune apparence, aucune. Mais il pensait que la puissance allait venir sur lui s'il arrivait à toucher un big man, un grand homme de Dieu. Alors il allait dans les tentes des Reinhard Bonnke, des Benin, de tous les grands. Et puis il n'arrivait jamais. Mais un jour, il s'est approché tout à fait devant et il était presque en train de toucher le big man. Et au moment où je vais le toucher, la puissance va venir sur moi. À ce moment-là, un bodyguard, un garde du corps se met devant lui et lui dit, on ne vous connaît pas, bien sûr c'est un nobody, on ne vous connaît pas, vous n'avez pas le droit de toucher l'homme de Dieu. Okay. Il rentre à sa chambre d'hôtel, encore une fois il avait économisé pour aller à une conférence et être touché par un grand homme de Dieu. Puis le Seigneur lui parle, en fait Henri, quand tu veux le toucher, c'est pourquoi? Il dit, Seigneur, c'est pour recevoir l'onction, il a l'onction. Il a l'onction, c'est vrai. Mais pourquoi de temps en temps tu parles contre les catholiques? Mais qu'est-ce que ça va voir, Seigneur? Tu leur reproches tout le temps de venir à moi par des intermédiaires. Mais je ne comprends pas pourquoi tu leur reproches cela. Et toi, tu cours toutes les tentes et les conférences pour aller à moi, recevoir mon onction que j'ai donnée à cet homme par son intermédiaire. Ne les critique plus. Ou alors, viens à moi. Tu sais, il n'y a pas de bodyguard devant moi. Et tu peux venir à tout moment. Tu n'as même pas besoin de payer ta chambre d'hôtel. Tu peux le faire chez toi. Et tu viens à moi. Et Henri a été touché par la présence directe de Jésus. Et ce petit homme a commencé à grandir. Il avait une assemblée de 50 quand Jean-Luc Traxel, le cousin de Marisa, lui a donné la voiture. Lui était tout nouveau marié avec son épouse, sont allés en Ukraine. Ils ont offert leur meilleure des deux voitures à ce pasteur qui a commencé à courir pour chercher les paroissiens partout dans la ville. En ce temps-là, Henri avait une petite assemblée de 50 personnes, toujours humble, toujours un nobody. Et puis l'œuvre de Dieu a grandi. Il a dit, j'ai mis des centaines et des milliers de gens dans cette voiture que vous m'avez laissée. Ça a été un déclic pour le ministère d'avoir une voiture à ce moment-là. Et puis les gens ont commencé à venir, tout partout, des guérisons. Et il dit, il y a la puissance juste parce que je vais directement la chercher auprès de lui. Un contact avec Henri m'a fait beaucoup de bien. Puis j'en ai vu un autre, Léo Biguer, dont je vous parlerai une autre fois. Et puis d'autres encore. Moi, j'aime fréquenter les gens. Quand je les quitte, vous savez ce qu'ils m'ont donné envie de faire? Seigneur, je viens à toi, il n'y a pas de bodyguard. C'est pour ça, cette semaine, c'était un plaisir de prendre plusieurs jours de jeûne et prière pour aller à Jésus directement. Fréquenter des gens qui vous donnent l'appétit de Jésus. Qui, quand vous les quittez, vous n'êtes pas abattu, en train de penser du mal des autres. Fréquentez les gens qui vous donnent une belle opinion, une soif de Jésus, bonne opinion de l'Église de Jésus, bonne opinion de la parole de Dieu. Quand vous fréquentez des croyants, fréquentez ce genre de personnes-là et votre puissance spirituelle va monter. Et édifiez-vous par la prière en langue. Vous allez dire, la semaine dernière, Richard nous a dit, Paul nous dit, il vaut mieux dire 5 paroles intelligibles dans l'Église que 10 000 paroles en langue, et c'est vrai. Mais Paul nous dit, je prie en langue plus que vous tous, donc probablement, avant de dire 5 paroles dans l'église, il en donnait 10 000 en langue dans sa vie de prière personnelle. Il y a 2 dimensions différentes ici dans le don des langues et la prière en langue. Le don des langues concerne quelque chose dans l'assemblée, et nous ne voulons pas de parler en langue au culte. Nous voulons des dons des langues, bibliquement parlant, 1 Corinthiens 14, un don des langues qui vient chanter, qui vient être dit ou chanté, ou un chant communautaire en langue, mais qui va nécessiter une interprétation. Ça, nous en voulons, oui. Mais juste de parler en langue pour s'édifier soi-même, à voix haute, non. Parce que ça, c'est réservé à ta vie privée. Et tu peux le faire au culte, mais fais-le de façon discrète. C'est entre toi et Dieu. Celui qui parle en langue de cette façon s'édifie. Mais c'est pas parce que nous disons, nous voulons plus des grands parler en langue déclarés au culte, que nous voulons pas des parler en langue dans la vie privée. Moi, je suis là ce matin pour dire, j'aimerais que vous parliez en langue davantage. Il y a quelques années, Yann nous a demandé de prendre l'engagement 10 minutes. Et ben moi, je dis, au bout de 10 minutes, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je sais pas comment je suis fait, mais moi, c'est au bout de 20 minutes qu'il se passe, commence à se passer quelque chose. Au bout de 20 minutes, quelque chose de surnaturel passe dans mon parler en langue. Qu'est-ce qui se passe quand on parle en langue? On commence à rendre d'excellentes actions de grâce, une louange avec excellence. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, tu te construis dans ton être intérieur. Comment est-ce qu'on appelle un lieu qui n'est pas construit et qui n'est pas arrosé? On appelle ça un désert. Quand tu parles en langue, tu arroses avec le fleuve de Dieu et tu construis la ville intérieure, ta vie intérieure. L'absence de parler en langue crée un désert dans ta vie même. En tout cas, c'est un moyen que Dieu peut nous donner pour nous édifier, nous construire. Tu rends d'excellentes actions de grâce et tu dis même des secrets divins, des mystères sont dévoilés à ce moment-là. Je pourrais vous raconter plusieurs histoires, mais je vais terminer ici ce moment. Et je vais le terminer par cet appel, et l'appel, ce sera une histoire. Un homme faisait de l'alpinisme. Quand cet homme a fait l'alpinisme, il est passé dans un canyon, il était tout seul, un grand rocher est tombé sur son bras. Et il était coincé, il essayait de crier, personne. Il essayait de soulever le rocher, il s'est débattu tout ce qu'il pouvait, personne. Après 3 jours, il avait épuisé toutes ses ressources en eau, en nourriture. Il n'y avait plus rien dans son bras, personne ne répondait, seul, abandonné dans la montagne. Le sang ne circulait plus dans son bras parce qu'il ne sentait plus rien dedans. Alors, il a fait un acte qui peut sembler impensable et courageux. Il a pris un couteau et il a coupé son bras, à l'endroit où c'était mort. Il a commencé à marcher sur la route, au bout de 2 kilomètres, il était évanoui, mais quelqu'un l'a trouvé sur la route. Et cet homme a été sauvé parce qu'il a fait le bon choix. Il a coupé avec ce qui était mort en lui. Il a laissé partir la partie morte de sa vie afin de ne pas mourir avec elle. Et parfois, il faut savoir abandonner des parties de nos vies qui ne sont plus vivantes pour pouvoir continuer la course de la vie. Mon appel ce matin, c'est que à l'heure où on va prendre ces décisions de ces 2 mois, certains ici doivent décider de ne pas s'attacher à leurs blessures. Tu es blessé, mais tu restes attaché à ta blessure. Et tu dois sauver ta vie en laissant partir cette blessure, une fois pour toutes. Te dire, maintenant je dois me détacher de cela. Je fais un acte courageux ce matin. Je coupe avec cette partie morte de ma vie. Si tu es accusé sur des parties anciennes de ta vie, si tu es blessé dans les parties anciennes de ta vie, arrête avec ça. Coupe avec ça. Détache-toi de ce rocher qui t'a rendu prisonnier et commence à reprendre la course de la vie qui t'attend, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Si vous repassez un truc qui vous tourmente, quoi que ce soit, un échec, une offense, une déception, je vous dis ce matin, c'est le moment pour vous de vous détacher. Alors simplement, maintenant on va répondre à cet appel. Et cet appel, il sera à la fois de se détacher de la blessure, ne reste pas attaché à la blessure. Il sera, Seigneur, je vais voir dans ta main ce qui m'arrive, et je vais garder mon cœur de tout fiel ou de toute réponse comme un cochon. Je vais garder mon cœur de tout fiel. Je dis d'accord, il y a la souffrance, ça fait partie du parcours, et je vais arrêter de brailler contre. Je vais voir ton intention derrière. Je ne serai plus une tête à claque pour le diable, je prends le terrain de mes pensées, et j'ai besoin de me mettre à l'école de Dieu dans ces temps de ma vie, le jeûne, prière, en langue, etc. Je vais laisser ce moment musical, et maintenant c'est à vous de répondre avec Dieu. Peut-être tout le monde peut se lever parce qu'on est tous au début de ces 2 mois en train de dire, Seigneur, transforme-nous. Mais dès que je vais mettre cette dernière diapo et ce texte qui va arriver, eh bien si vous voulez répondre cet appel qui est là, qui va être inscrit sur l'écran, vous pourrez simplement répondre en vous avançant ici en disant, Seigneur, j'ai besoin de me détacher de cette blessure. Ou bien, Seigneur, j'accepte de voir ta main dans ce qui m'arrive et de ne pas goûter au fiel. Seigneur, je ne serai plus une tête à claque pour le diable. Je vais me lever et je reprends le terrain de mes pensées. Seigneur, je vais me mettre à l'école de l'Esprit. Peut-être il y a un de ces 4 appels qui te concerne. Seigneur, dans ces 2 mois, merci de venir nous toucher au nom de Jésus. Touche-nous, touche cette Église. Fais de nous, Seigneur, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui acceptent de passer par le trou du cocon, qui transforme nos vies à ton image. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, nous toucher ce matin, disposer nos cœurs. Toi seul, tu peux faire une œuvre que moi, je ne peux pas faire. J'ai essayé de donner ta parole, mais Seigneur, envoie maintenant l'Esprit qui convainc, au nom de Jésus.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.